Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cathy Hazan pour le livre « Rire le jour, pleurer la nuit, les enfants juifs cachés dans la Creuse pendant la guerre 1939-1944 » qui vient de paraître chez Kalman Levy. Alors nos auditeurs vous connaissent bien, Cathy Hazan, puisque vous êtes responsable du service Archives et Histoire de l'OSE et vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Cette fois, vous vous êtes intéressé plus particulièrement à une colonie d'enfants juifs de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, accueillie au château de Chabannes, dans la Creuse, de 1939 à 1943. Une colonie dans laquelle le directeur Félix Chevrier a proposé aux enfants de rédiger un journal qui raconte la vie quotidienne du château de 1941 à 1942, un témoignage exceptionnel dans lequel les enfants dessinent, racontent leur quotidien, mais aussi disent d'où ils viennent, ce qu'ils espèrent du futur. Un témoignage qui est donc reproduit dans ce livre, qui revient sur l'histoire de cette colonie et sur le parcours des enfants qui y ont vécu. C'est assez exceptionnel comme document et surtout le fait qu'il ait été conservé, que vous ayez pu le retrouver dans son intégralité.
Oui, alors d'abord, j'en ai pas la paternité, je vais vous expliquer. L'OSE a fêté l'année dernière ses 100 ans et à cette occasion, Karen Taïeb, l'archiviste du mémorial, me dit « Écoute, j'ai les archives de Félix Chevrier que je connaissais, pourquoi ne pas publier le journal de Chabannes ?» Et donc, j'ai sauté évidemment sur l'occasion et de remettre ce texte qui n'a jamais été utilisé. Bon, parce qu'il est dans un fonds d'archives déposé au mémorial de ce directeur de la maison d'enfants de l'OSE. Il est plus que là, plus que ça, Félix Chevrier. C'est un franc-maçon qui avait des responsabilités politiques dans l'avant-guerre et que l'OSE a eu l'intelligence d'utiliser un petit peu comme... comment je vais vous dire, comme paravent, il est pas juif, comme paravent non juif, pour avoir une certaine respectabilité dans cette période de la guerre qui commence. Il est donc secrétaire général de l'OSE et il va présenter l'OSE au ministre des Affaires sociales, Marc Ruka, comme une association capable de s'occuper d'enfants au moment où c'est les bombardements et donc où le gouvernement français se préoccupe de faire partir les enfants des écoles pour les envoyer en province. Et puis...
De tous les enfants.
Tous les enfants.
Tous les enfants, effectivement.
Sauf que l'OSE s'occupe d'enfants juifs.
Voilà. Et Chevrier va en profiter pour s'occuper de ses enfants réfugiés.
Exactement, insérer ses enfants réfugiés juifs dans l'ensemble des enfants réfugiés. Sauf que tous les autres, ils retournent à Paris après, au moment de la drôle de guerre, sauf que ceux de l'OSE, ils restent dans ces maisons d'enfants que l'OSE a ouvert. Elle en a ouvert pour l'instant, c'est-à-dire en 1939, elle en ouvre 3 dans la Creuse et une en Haute-Vienne. Voilà. Et c'est donc une de ces maisons-là, Chabannes.
C'est un des 3. Il y a 3 châteaux, apparemment,
dans
la Creuse.
Qui étaient relativement délabrés et qui sont mis en place dans la hâte, avec des lits, des cuisines, enfin bon. Un peu du bricolage au départ, mais on installe l'équivalent de, disons, dans les 3 châteaux, une centaine d'enfants par château. Puis après, il y en aura d'autres. Ce sont des enfants de juifs étrangers, en général, immigrés, pauvres, dont s'occupe l'OSE, qui est une œuvre d'assistance de la communauté juive. Œuvre médico-sociale.
Qui remonte à loin, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'OSE,
mais
voilà, en quelques mots.
Mais elle s'occupe des enfants de juifs immigrés. Je vais vous dire, de la même manière que la colonie scolaire avait mis en place, pour ces mêmes enfants d'ailleurs, la fameuse colonie de vacances à Berck-Plage. Il y a toute une génération qui connaît Berck-Plage. Voilà. Bon, ben, l'oser s'occuper des enfants de juifs immigrés et au niveau médical et au niveau social. Et donc, c'est ces enfants qu'elle amène dans ce château de Chabannes. Et c'est donc l'histoire de cette colonie d'enfants.
Donc on apprend dès le début, quand on lit donc ce journal, comment ça s'est fait au début. C'est-à-dire manifestement quand Félix Chevrier, alors je ne sais pas s'il tire la couverture à lui ou pas, mais apparemment il y a d'autres témoignages qui convergent, c'était presque le chaos quand il arrive. La colonie avait quelques mois, rien n'était installé.
Rien n'est installé. Je l'ai souligné, hein, c'est que j'ai trouvé d'autres documents où c'était pas ce chaos-là. Alors qui croit ? Moi, je pense que la vérité, elle est toujours au milieu, c'est-à-dire, on le sait par les autres châteaux que les débuts sont chaotiques. Mais là, à Chabannes, on a vraiment l'impression que c'est...
Ah ben c'est des enfants sauvages qui vivent dans la liberté la plus totale.
Dans la liberté la plus totale, je me méfie quand même un peu de ce qui est écrit à chaud. Mais en même temps, je crois que c'est intéressant, justement. Ce genre de document est intéressant pour ce que ça reflète de l'époque et du ressenti de l'époque. Alors, est-ce que c'est la vérité historique ? Bon.
On va peut-être parler plus précisément de ces enfants. Combien sont-ils d'abord qui sont passés par Chabannes ?
Alors, sur l'ensemble de l'époque, c'est-à-dire entre 1939 et la fin de Chabannes, c'est-à-dire la fin de 1943, c'est 130 enfants qui sont passés. Et puis, d'âge très varié, il y a vraiment des petits pitchouns de 5 ans et des ados. Et des ados qui ont...
Qui sont passés, eux, par les Berlinois. Comme
voilà, les fameux Berlinois. Ces fameux Berlinois, c'est quand même un groupe étonnant. D'abord parce qu'on a gardé beaucoup de liens avec ces Berlinois. Et l'un d'entre eux, Norbert Bicalès, est devenu le président de l'OSE Amérique. Ce sont des gens qui ont toujours, toujours gardé une infinie reconnaissance pour l'OSE, pour ceux qui les ont gardés dans pour tout le monde. Et ils le rendent bien, vraiment. Alors, c'est une jolie histoire. Et c'est une histoire qui ne fait pas intervenir l'OSE au départ, mais un conte un peu fantastique et uluberlu qui est Hubert de Montbrison. On connaît ici son fils, qui est Christian de Montbrison. Et Hubert est le père, tout aussi généreux et farfelu, qui va ouvrir un château de Quincy, pour
sa
maîtresse, la princesse Palais, maîtresse officielle, qui est aussi la marraine de Christian. Et qui va installer
au départ, c'est des jeunes filles, je crois.
Des jeunes filles russes blanches. Puis après, les jeunes filles russes blanches, ce sont des Espagnoles de la guerre d'Espagne. Donc des rouges, alors des blancs, des rouges. Et en début 39, ce conte qui a des idées socialistes, hein, avaient monté un comité de sauvetage, un comité politique pour les réfugiés. Et il fait venir, in extremis, ça, mais au début 39, 44 jeunes Berlinois avec leurs éducateurs. Il met à leur disposition le château, il met à leur disposition des enseignants de français, pour que ces garçons puissent être intégrés à la France et être accueillis. Puis arrive la guerre. Et donc, ces garçons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont fuir comme tout le monde. Et c'est l'exode. Et l'un d'entre eux raconte dans le journal l'exode. Cet exode du château de Quincy, il faut le replacer dans l'époque, c'est-à-dire dans la pagaille absolue. Et ils font des ronds dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont partir sur les routes et ils vont faire 100 km. Il y a les bombardements des Allemands, ils remontent au château. Et il le raconte avec un humour. Bernd Varschauer, il s'appelle ce jeune garçon, dans le journal, il le raconte avec des dessins et un humour assez extraordinaire. Il remonte au château et là, le château, c'est l'armée allemande qui l'a occupé.
Réquisitionné.
Et les soldats allemands rencontrent le face-à-face avec ces jeunes juifs berlinois. Ça s'est soldé par un match de foot. Oui. C'est vrai qu'en soi, c'est drôle. On ne s'imagine pas, c'est la guerre et puis tout. Mais en même temps, c'est assez dramatique. Parce que le comte Hubert de Montbrison, là, il est dépassé par les événements. Et c'est là qu'il fait appel à Lozé. Et il dit, moi je ne peux pas les garder. Mon château est envahi. Qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là que Lozé, par petits paquets, va les distribuer un petit peu. Certains vont passer par l'orphelinat Rothschild. Certains vont aller du côté de la CIMAD ou des Quakers, je ne me rappelle plus. Et puis, il y en a une bonne partie qui arrive à Chabad.
Les Quakers, je crois, parce qu'ils parlent de la nourriture qui a été déqualité.
Malheureusement, deux d'entre eux vont être arrêtés, déportés, dont ce jeune Bernd Varschauer, et au moment de la grande rafle de juifs étrangers d'octobre 1942.
On y reviendra un peu plus tard. D'autres de ces enfants sont passés, eux, par les camps d'internement.
Voilà.
Ont des histoires très difficiles aussi,
des histoires dures. Explique d'ailleurs le titre du livre. Parce que l'une des éducatrices, Rachel Plodermacher, avait dit « Chaban est un temps lumineux ». Mais, avait-elle rajouté, « ces enfants dont on a la charge riaient le jour et pleuraient la nuit ». Et je crois que c'est vraiment une très belle phrase qui résume tout à fait qu'est-ce que c'est qu'un enfant caché. Alors, effectivement, la sortie des camps d'internement de Gurs et de Rivesaltes, ça a été l'une des tâches d'un certain nombre d'organisations juives, Lozé d'une part, mais aussi les éclaireurs israélites, mais aussi la CIMAD, mais aussi les Quakers, donc toute une myriade d'organisations caritatives dont l'objectif était soit d'apporter des secours en nature, soit, comme Lozé, d'essayer de sortir au moins les enfants. Ils y sont arrivés, hein. C'est-à-dire à la veille des rafles, il y a pratiquement plus d'enfants juifs dans ces camps d'internement. Alors, pourquoi il y avait tellement de juifs étrangers dans ces camps d'internement ? On oublie toujours cet épisode qui est le transfert, la déportation, on va dire, de trois landers allemands, le Bad, le Palatinat et la Saar, qui ont été vidés de leurs juifs début octobre 1940. Et comme ce n'est pas encore les transports à l'Est et ce n'est pas encore la solution finale, l'idée c'était Judenrein. On ne veut plus des juifs et où c'est qu'on les envoie ? Chez le voisin. Et le voisin, c'est évidemment la France dite libre, celle de Pétain. Et vous vous doutez bien comment Pétain les reçoit. Ce sont donc des... je ne me rappelle plus si c'est 6 ou 9 trains entiers, femmes, enfants, vieillards, qui ont été donc 7600 personnes qui arrivent à Sainte-Marie-d'Oloron pour être ensuite dispatchées à Gurs. On est en octobre 40. C'est la panique généralisée. Rien n'est préparé, bien évidemment. Donc, l'hiver à Gurs, l'hiver 40, il y a des gens qui sont morts de faim et morts de froid. Il y a des photos absolument épouvantables de personnes complètement cachectiques. Et donc, juste après l'hiver 40, à Gurs, on envoie les familles à Rivesaltes. Et donc, c'est à Gurs et à Rivesaltes que les œuvres juives vont essayer de sortir ses enfants. Et donc, il y en a un qui vient qui parle de Gurs, d'ailleurs. Hein.
Oui, absolument. Oui, et oui. Ce qui est très, très fort aussi dans ce livre, c'est qu'on voit que, justement, ces enfants arrivent au château. On souhaite qu'ils soient intégrés à la société, donc qu'ils apprennent le français. Et ils vont apprendre, pour certains, dans l'école du village, avec les sœurs Payassou.
Voilà, c'est ça. Alors, là encore, et c'est là où intervient, finalement...
Félix Chevrier.
L'accueil, ouais, l'accueil de ces départements du centre de la France où ce sont des paysans, hein, mais vraiment ouverts et généreux. Alors, pas tous, on ne va pas faire de l'angélisme, mais en tout cas... beaucoup d'entre eux ont aidé ces enfants, les ont accueillis, d'autant plus que les instituteurs ont donné l'exemple. Et là, ce sont des institutrices. Il y a les institutrices de Chabannes, les sœurs Payassou, mais il y a aussi l'instituteur de Fursac.
Oui, parce que les grands allaient
les grands,
un peu plus loin.
Les grands allaient plus loin à l'école primaire de Fursac et les petits à l'école de Chabannes. Les deux sœurs Payassou, sont beaux, c'est le texte qu'elles écrivent dans le journal. Elles ont tout fait pour l'intégration de ces enfants. Vous imaginez dans ce petit trou perdu des enfants juifs étrangers qui parlent à peine français et qui elles arrivent à ce tour de force que ça forme une communauté.
Et puis qu'ils réussissent, surtout.
Alors là, ça a été un peu aussi la catastrophe, c'est-à-dire qu'ils ont pris les premières places et qu'ils ont été les premiers... Au certificat d'études.
Ouais.
Et alors, écoutez, ce Norbert Bicalès, il a gardé ce certificat d'études primaire avec premier du canton toute sa vie avec une fierté. Et d'ailleurs, il l'a perdu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et à la dernière rencontre, l'inspecteur d'académie lui a refait certificat d'études. Un monsieur qui est bardé de diplômes, qui a réussi en Amérique, etc. Mais ça, c'était... Alors, je l'ai compris. Je l'ai compris après. En fait, ce défi qu'ils s'étaient fait eux-mêmes, ces enfants, c'est qu'il fallait que leurs parents soient fiers d'eux. Je trouve ça très émouvant. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés de leurs parents, ils ne savaient pas ce qu'ils... Ils savaient que c'était grave, mais il fallait qu'ils soient... que leurs parents soient fiers d'eux. Et je termine là-dessus. C'est que Norbert Bicalès a demandé à Félix Chevrier d'envoyer une lettre pour donner des nouvelles à ses parents. Cette lettre, miraculeusement, les parents l'ont reçue. On le sait par le frère aîné qui a échappé à la déportation.
Les parents, ils étaient où à ce moment-là?
Alors, c'est compliqué parce que les Juifs d'origine polonaise, allemande, avaient été virés par Hitler déjà fin 38, puisque ça a déclenché la nuit de cristal, dans une zone tampon qui est à Zbondin. C'est-à-dire, il avait tous les Juifs, il avait commencé par les Juifs d'origine polonaise. Mais les Polonais n'en voulaient pas. Donc, errer dans une espèce de zone frontière de No Man's Land avant d'être déporté définitivement plus tard, en 42, vers Treblinka, Auschwitz, voilà. Donc, on sait par le frère aîné, qui lui a pu s'échapper, que les parents, avant d'être déportés, avaient reçu la lettre de Félix Chevrier, qui disait que Norbert était un bon élève, qu'il était brillant, qu'il ferait quelque chose dans la vie, qu'il était bien soigné, qu'il était en France et que les parents n'avaient pas à s'inquiéter. Et c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une première rafle, non, celle-ci en août 42, ouais, un peu plus tôt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à la colonie ?
Alors, cette rafle, qui est une rafle globale de tous les Juifs étrangers, concernait malheureusement aussi les enfants de plus de 16 ans. Et donc, au Magelier, les enfants ont été donnés. Les éducateurs n'ont pas eu le temps de s'organiser. Alors qu'à Chabannes, Chevrier a eu d'abord une présence d'esprit qui est, quand les gendarmes sont arrivés avec une liste, il y en a un qui a été sauvé. Parce que sur la liste, il y avait marqué Oppenheimer, et en fait, il s'appelait Odenheimer. Et donc,
Félix Chevrier... Il a dit, il n'y a pas d'Oppenheimer.
Puis, certains ont été cachés, effectivement. Parce que ce que faisait Félix Chevrier, c'est qu'il les faisait sortir dans le parc et dans la forêt avec un éducateur, passer même la nuit dehors et revenir après. Et donc, il y a eu 4 jeunes qui ont été pris ce jour-là. Lozé est arrivé à en sortir quelques-uns en aval, c'est-à-dire au moment où ils sont dans les centres de regroupement, Annexon surtout. Il y en a un aussi au Siegolstein qui arrive à partir parce que le chef de camp lui dit « ta mère vient d'accoucher, tu peux aller voir ton petit frère ». Voilà, donc à quoi ça tient. Et puis il y a eu une autre rafle, et là les sœurs Payassou vont intervenir en mobilisant leur père, qui était un ancien gendarme. Donc on voit comment toute la communauté du village va se mobiliser pour protéger les familles et les enfants.
Une dernière question sur la dispersion des enfants qui va avoir lieu quelques mois plus tard face à ces rafles à répétition, donc oui, organisées par Lozé, notamment avec le circuit Garel.
Oui.
Vous revenez sur le parcours de nombre d'entre eux. Certains sont partis notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui advient globalement de ces enfants qui sont passés par Chabannes ?
Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que, on le sait, mais c'est pas fini au fond. À Chabannes, c'était un temps lumineux. Après, commence la galère. Commence la galère d'un enfant caché, avec ce que ça suppose d'isolement, de nom, de changement de nom, de moments malheureux chez des paysans qui les prennent, surtout pour les filles, comme des bonnes à tout faire, etc., etc. Et puis, alors, une partie d'entre eux ont la chance de partir aux États-Unis, c'est vrai, tôt, parce que après novembre 42, c'est fini, on ne peut plus partir aux États-Unis. Mais, le fameux Eldorado américain, c'est vrai qu'ils sont sauvés, mais ça ne veut pas dire que leur galère est terminée. Et en particulier, moi, j'ai fait le...
En tant qu'Allemand, là-bas, oui, il y a certains qui rencontrent des difficultés.
Si on est allemand, c'est-à-dire étranger, et puis qu'on est à la limite d'âge, parce que le jeune Stephen Lewy, quand il va rejoindre son père à Boston, il a entre 16 et 17 ans. Or, l'Amérique ne voulait pas accueillir de jeunes au-delà de 16 ans, sinon c'était considéré comme des adultes, et puis comme fallait s'en méfier parce qu'il fallait les
c'était
surveiller.
C'était des ennemis, oui, ouais. Presque fiscalement.
Et donc, on dit aux jeunes Lewy, c'est où Ellis Island, où vous vous engagez. Et voilà ce gamin qui venait de France, qui s'engage dans l'armée américaine, qui l'envoie où ? Eh ben, en France. Et le voilà qui revient avec un uniforme américain. Alors évidemment, il n'a pas de fusil, il est dans l'intendance, mais il va être dans les Ardennes. Il va être suspecté d'être allemand.
D'être un espion.
Espion allemand. Et ensuite, le voilà qui va à Buchenwald pour libérer Buchenwald. Et qui voit, qui est traumatisé par ce qu'il a vu. Et il n'ose même pas aller à l'enterrement de son père, qui était
décédé entre-temps.
Entre-temps, parce qu'il a peur qu'on l'envoie dans le Pacifique. Et il dit, ben, voyez, moi, Hiroshima, ça m'a sauvé, parce que ça a été, pour moi, la fin de la guerre. Ça fait des parcours lourds. Hein.
C'est des parcours incroyables, que vous pouvez donc tous retrouver dans ce livre, Rire le jour, pleurer la nuit, qui vient de sortir aux éditions Kalman-Lévy en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Une toute dernière question, mais peut-être vous pouvez répondre par oui ou par non, Cathy Azan. Il avait été question de faire un mémorial, ou en tout cas un lieu de mémoire au château de Chabannes. C'est quelque chose qui...
Oui. Alors,
qui est toujours en cours.
Non, alors, c'est... Il y a une association et il y a des plaques. Des plaques, sur l'école du château, parce qu'il y a une association locale extrêmement vivante et qui est soucieuse de garder la mémoire de ce lieu.
De ce qui s'est passé.
Ce lieu vient d'être acheté par des propriétaires, je viens de le savoir, d'origine écossaise, et qui ont promis de respecter l'aspect historique de ce château. Voilà.
Très bien, je vous remercie encore, Cathy Azan. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le net, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.